Nous allons, si vous le voulez bien, ensemble, ce matin, réfléchir. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses, dit le livre des Proverbes. Et nous l'avons déjà souvent signalé, mais il faut le redire, c'est ce qui manque à notre époque. On ne réfléchit plus sur les choses en profondeur. Et Dieu, pourtant, veut que nous réfléchissions. C'est là, on pourrait presque dire, que se fait la jonction en nous, dans notre cœur, la jonction du naturel qui est en nous, car nous avons encore, étant sur cette terre, une vie naturelle. La jonction du naturel et du surnaturel. Et c'est ça qui fait l'homme spirituel, le chrétien. Eh bien, nous allons réfléchir sur un très beau sujet, l'amour de Dieu. Nous avons cette semaine pris connaissance ensemble de ce que la révélation de Dieu nous apprend. Et qu'elle désire que nous sachions du prochain retour du Seigneur Jésus. Mais toute connaissance doit être aussitôt assortie de l'amour. Vous savez que le Seigneur a dit que tout homme devrait être salé de feu. C'est étonnant cette formule, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, salé de feu. Que voulait-il dire? Eh bien, tout simplement que les sacrifices que l'on offrait sous l'empire de la loi de Moïse, les victimes sacrifiées, devaient être salées. C'était le signe de l'alliance. Et si un sacrificateur avait oublié cela, son offrande n'aurait eu aucune valeur. Il fallait qu'elle soit salée, c'était le signe. Et dans la nouvelle alliance, nous qui offrons à Dieu des victimes spirituelles, nos vies sont offertes à Dieu. Il faut qu'il y ait sur ces offrandes, ces victimes spirituelles, il faut qu'il y ait ce sel de l'amour ou du feu, si vous voulez, le sel, n'est-ce pas, doit être là comme le signe qui va manifester la réalité de cette offrande que nous faisons à Dieu de nos personnes, de nos vies. Par conséquent, il nous faut nous instruire de l'amour et le connaître. Nous allons relire deux textes. D'abord dans Jean chapitre 15 et verset 9. Ce beau texte d'un enseignement que le Seigneur Jésus a prononcé à la fin de son ministère, pas au début, mais à la fin. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Oh, je relis ce verset. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous allons lire maintenant dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, ce beau chapitre 13, qui intervient au milieu de l'enseignement sur les dons, les ministères et les dons. Chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, il faut supprimer ce mot charité qui n'est pas à sa place, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Eh bien, ce que je voudrais ce matin, c'est vous faire apercevoir les raisons qui sont dans la parole de Dieu, pour lesquels cet amour a cette place privilégiée. Cet amour qui est comme le sel répandu sur les offrandes, comme le sel répandu, mettons, sur les œuvres. S'il n'y est pas, il n'y a point de saveur. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'efficacité, ça ne vaut rien. C'est curieux, n'est-ce pas, quand nous venons de lire ici, dans cette démonstration de l'apôtre Paul, que même s'il avait la foi, si quelqu'un, mettons, avait toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est merveilleux ça, d'avoir une telle foi. Eh bien, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. C'est-à-dire que son transport de montagnes, les choses qu'il va peut-être, supposons-le, réaliser par la puissance de la foi, ça ne donnera rien, ça ne servira à rien, il n'en subsistera rien pour l'éternité. C'est quelque chose que cela, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que nous comprenions. Mais déjà, éclairons un point. Ce rapport, cette relation entre la foi et l'amour. Comment se fait-il que cette foi, n'est-ce pas, qui est en somme la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est l'exercice d'un don, disons, parce que le Seigneur a mis dans tous les cœurs la pensée de l'éternité, c'est-à-dire l'aspiration à l'éternité, c'est-à-dire cette possibilité de foi. Mais c'est à nous que revient la responsabilité d'exercer la foi. Le Seigneur ne va pas le faire pour nous. C'est la seule chose, n'est-ce pas, que nous ayons à faire. Eh bien, rapport entre la foi et l'amour, quel est-il? La foi, si elle s'exerce, alors elle ouvre le cœur. Si elle ne s'exerce pas, le cœur est fermé, est endurci. Le cœur est endurci, il n'y pénètre rien. Et par conséquent, ce cœur ne peut pas avoir d'amour, parce que l'amour est versé par le Saint-Esprit dans les cœurs. Mais si le cœur est fermé, il n'y en aura pas. Et si au contraire, la foi est grande, n'est-ce pas, et si cette foi éclairée désire l'amour, il faut que nous le désirions, alors là, le Saint-Esprit le versera. Mais à condition aussi que notre foi s'emploie à accomplir les commandements, mettre en pratique les commandements du Seigneur, la parole de Dieu. Eh bien, nous allons éclairer tout cela ce matin. Je rappellerai tout d'abord une chose, c'est ce qu'on peut connaître, ou ce qu'on peut dire, de l'amour, parce que le connaître, il faut le connaître par expérience. Chacun de nous doit faire l'expérience de l'amour. Mais disons que l'amour par lui-même est un lien du cœur et de l'esprit avec Dieu. C'est un lien. C'est un lien, le lien de la perfection. C'est un lien. Aimer Dieu, cela consistera donc, je dis cela pour préciser, à tourner sa pensée vers lui dans la joie. Dans la joie, non pas comme un devoir, mais dans la joie. Cela consistera à avoir besoin, ressentir toujours un grand besoin d'être à certains moments seul avec lui. Même si nous sommes en compagnie, nous avons besoin d'être seul avec Dieu. Cela consistera à s'attendre à lui pour tout. Aussi à être poussé à lui être agréable. Dans l'obéissance, simplement parce qu'il est Dieu. Pas pour d'autres raisons. Il ne faut pas se dire, tiens, cela est écrit, ah bien, si je le fais, s'en suivra telle conséquence heureuse pour moi. Non, ce n'est pas cela notre pensée. Je fais ce que me demande le Seigneur parce que je l'aime, parce qu'il est Dieu. Pour lui plaire, le Seigneur Jésus disait, je fais toujours ce qui lui plaît. C'est cela que nous avons à faire, selon l'amour. Tout simplement parce qu'il est Dieu, et l'amour consistera aussi, bien sûr, à l'adorer, à le servir avec zèle. Et nous pouvons dire tout de suite que la vie nouvelle, qui est celle dans laquelle la conversion nous a engagés, cette vie nouvelle n'a de réalité que si elle contient l'amour. Sinon, elle est factice. Il n'y a pas de vie nouvelle sans amour. La vie nouvelle est comme la vie physique qui a besoin de la respiration. La respiration est d'ailleurs ce sur quoi l'Ancien Testament met un accent particulier, au point que vie et respiration sont souvent pris l'une pour l'autre. Mais la vie nouvelle, elle, ne peut pas exister sans l'amour. Et l'amour est absolument indispensable, la vie et l'amour sont ensemble et ne peuvent pas être séparés. Et cette vie ne se réalise que dans la communion avec le Père et le Fils, c'est-à-dire un lien vivant avec Dieu par le Fils. Si nous avons été réconciliés avec Dieu, comme nous aimons le rappeler souvent, réconcilié avec Dieu. Eh bien, nous sommes réconciliés, pas pour rester séparés. Quand on est réconcilié avec quelqu'un, c'est pour se voir. C'est pour pouvoir se retrouver. Eh bien, il faut, par conséquent, que nous soyons dans la communion. Et nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui veut dire que tout discours, toute parole que n'inspire pas directement l'amour de Dieu rend un son creux. Et comme disait le prophète, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. C'est du bruit qui n'a aucune valeur. Chers amis, attention, nos paroles, notre témoignage, n'ont de réalité, de valeur, que si de notre cœur, c'est l'amour qui les pousse au dehors. S'ils partent sans l'amour, si nous disons cela parce que nous l'avons appris, parce que nous nous faisons un devoir lancer à tous échos et à tout vent des versets bibliques, nous sommes des fâcheux. Serions de mauvais, nous serions des gens ennuyeux pour le monde. Vous savez qu'il y en a, des gens ennuyeux, hélas, hélas. Bah, c'est un grand défaut, malheureusement, que nous devons éviter. Mais si c'est l'amour qui fait jaillir de notre bouche des paroles de vérité, les paroles venues de la... D'abord, ces paroles seront limitées, n'est-ce pas? Eh bien, alors, ces paroles auront de la valeur, auront de l'efficacité. Je vais vous expliquer cela et vous en donner les raisons. Aucun savoir ne peut s'appeler vérité quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Aucun savoir, aucun, ne pourra s'appeler vérité, ne pourra même s'approcher de ce qui se nomme vérité dans la révélation de Dieu, en dehors de la relation d'amour avec Dieu. Car la vérité, ce n'est pas autre chose que la vie même de Dieu, la vie de Christ. La vérité, ce n'est pas une doctrine qui a été bien ajustée. On appelle ça souvent, n'est-ce pas, la vérité, dire la vérité, énoncer la vérité. Mais la vérité, n'est-ce pas, lorsque Jean dit « la vérité est en nous et sera avec nous pour l'éternité », c'est la vie même de Christ qui est la vérité. Ainsi, la foi... Sans l'amour, Paul suppose, n'est-ce pas cela, la foi sans l'amour. En réalité, s'il y a une grande foi, nécessairement, cette foi désirera l'amour, cette foi s'ouvrira à l'amour, et l'amour viendra, puisque l'amour vient de Dieu, il n'est pas de conception humaine, il vient de Dieu. Eh bien, la foi sans l'amour ne permet rien, elle aboutit à la glorification de l'intelligence humaine et de l'homme et de la chair, tout simplement. Elle est la recherche d'une action peut-être surnaturelle qui ne peut avoir aucune efficacité, dont il ne proviendra aucun profit. Elle est une illusion. Par conséquent, la foi qui discute, la foi qui aime à s'en tenir à la spéculation sur des principes, des choses révélées, sur telle et telle philosophie, cette foi-là est vaine, absolument vaine, mes amis. D'ailleurs, elle n'ira pas loin sans déformer la parole de Dieu. Mais nous avons lu dans 1 Corinthiens 13 et au verset 8... Nous avons lu ceci, l'amour ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. C'est donc lui qui va rendre toute œuvre solide pour l'éternité. C'est l'amour qui va rendre toute œuvre solide, durable pour l'éternité. Je vous rappelle ce qu'a dit le Seigneur, écoutez cela. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez pour ce qui subsiste jusqu'en vie éternelle. Et tout à l'heure, dans Jean aussi, cela était au chapitre 6 de Jean, mais au chapitre 15 de Jean, tout à l'heure, nous avons lu ceci, « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Mais quel fruit ? « Et que votre fruit demeure, que votre fruit reste, que ce soit le fruit qui franchit la durée des temps et se retrouve en vie éternelle. » L'amour ne périt jamais. Voilà pourquoi les œuvres de la foi, le témoignage, le ministère qu'exercent certains hommes qui ont été appelés à cela, sont rendus efficaces jusqu'à demeurer jusqu'en vie éternelle. Et toutes les œuvres de la vie chrétienne, de tout chrétien, toute œuvre de tout chrétien va subsister jusqu'en vie éternelle si ces œuvres sont faites par la foi, bien sûr, comme produit de la foi, mais aussi selon l'amour, avec l'amour. Eh bien, pourquoi en est-il ainsi ? C'est ce que je voudrais vous expliquer. Oh, très simplement, vous allez comprendre pourquoi il en est ainsi. Pourquoi l'amour de Dieu qui est versé dans les cœurs des croyants a cette efficacité, rend tout efficace, rend tout valable et permet à toute œuvre d'être valable pour l'éternité. Eh bien, il y a plusieurs considérations à voir. Je vais vous les présenter l'une après l'autre. Disons d'abord ceci. C'est que lorsqu'un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu, est dans l'amour, eh bien, que va-t-il faire ? Il va nécessairement s'offrir lui-même. Dans l'amour, l'homme spirituel s'offre lui-même. L'amour le pousse à s'offrir. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas ? Voyez-vous, il ne va pas faire quelque chose parce qu'il est commandé pour faire cela, parce que sa doctrine, sa ligne de conduite est de faire cela. Non, il va s'offrir. Vous connaissez Romains 12, offrez vos corps en sacrifice agréable, pas pour être brûlés sur un autel, bien sûr, offrez vos corps en sacrifice agréable, offrez à Dieu, c'est nécessaire, nous dit Paul, que vous vous offriez à Dieu, vous offrez votre vie, esprit, âme et corps, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur. Donc, l'homme spirituel s'offre à lui-même. Nous avons de cela quelques versets qui nous en avertissent dans la première épître de Jean, chapitre 3, et au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est terrible cela. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Chers amis, est-ce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ pour demeurer dans la mort ? C'est terrible cela. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez, n'est-ce pas, que vraiment, par son témoignage, dans toutes ses œuvres, dans sa vie nouvelle, le déroulement de sa vie nouvelle, le chrétien qui aime va s'offrir lui-même. Quel grand avantage! Et autrement, eh bien, il agirait comme étant étranger et absent de ce qu'il annoncerait, ou de ce qu'il proposerait. Il proposerait, par exemple, des choses qui ne seraient pas vraiment, dans lesquelles il ne serait pas lui-même, n'est-ce pas? Une deuxième raison qui nous fait entrevoir pourquoi l'amour rend tout vrai et efficace, eh bien la voici, deuxième raison. L'amour ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Nous avons rappelé tout à l'heure, Romains 5, 5, qu'il était versé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Donc, dans l'amour, c'est Christ qui agit. C'est Christ, c'est le Seigneur, l'Esprit qui agit, c'est Dieu qui agit par l'homme. Et sans l'amour, c'est l'homme qui agit. Il peut agir en s'appuyant sur des directives puisées dans la parole de Dieu. C'est l'homme qui agit, et ça ne vaut rien. Dieu n'acceptera pas. C'est l'offrande de Caïn, ce n'est pas celle d'Abel. Chers amis, vous voyez, n'est-ce pas, ce que l'amour vient faire. L'amour, véritablement, qui, lui, vient dans les cœurs, est apporté par l'Esprit, et l'Esprit, c'est le Seigneur. Eh bien, dans l'amour, donc, je répète, c'est Dieu qui agit par l'homme, dans l'homme. C'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit. Comme c'est merveilleux, cela. N'est-ce pas, vous voyez. Troisième raison de cette efficacité due à l'amour. Eh bien, c'est que l'amour, lui, il a ceci d'excellent. Qu'est-ce qui se trompe? Qui peut se tromper? L'homme. L'amour ne se trompe jamais. Ah, l'amour ne se trompe pas. Il a ceci de particulier. L'amour ne peut pas se tromper parce qu'il accomplit toujours, toujours la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose, la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais l'amour, lui, ne peut pas ne pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Christ nous a montré, n'est-ce pas, pour lui-même, dans le cours de son ministère terrestre. Je ne fais pas ma volonté, je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé, cela seulement. Et nous avons aussi, dans la première de Jean, des versets qui nous en instruisent. Je vous lis 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Remarquez ceci, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le mot est un peu malheureux en français, le verbe consister. Il ne traduit pas l'idée. On pourrait dire, tiens, aimer, eh bien, cela, je vais m'appliquer à accomplir les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça l'idée dans le texte original. L'amour de Dieu a la puissance d'accomplir les commandements de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu pousse à l'accomplissement des commandements de Dieu. Voilà ce que notre troisième raison. L'amour donc ne s'égare jamais. Il suit le chemin au milieu de toutes les obscurités de la terre. Il peut y avoir des nuages épais, des difficultés, le monde peut être contre nous avec toutes ses doctrines, avec toute sa philosophie, son matérialisme. Mes amis, l'amour, lui, il trace là au milieu. Et il trace le vrai chemin. Ah, chers amis, comme c'est important. Mais il y a encore une autre raison. Voyez comme il y en a des raisons à l'efficacité de l'amour, n'est-ce pas, que l'amour apporte aux œuvres ou aux témoignages et à la vie chrétienne. Eh bien, c'est que l'amour a ceci de merveilleux encore, c'est qu'il est ressenti. Il est ressenti par tous ceux qui écoutent. Alors, vous parlez, vous apportez la parole de vie, nous dit l'Écriture. Et vous n'êtes pas fait pour être muet, n'est-ce pas? pas être bavard non plus.
Bien sûr.
Oh, loin de là, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vu comme des gens qui sont muets. Vous devez apporter la parole de vie, bien sûr, poussée par le Saint-Esprit. Mais si vous parlez par l'amour, avec l'amour, si votre cœur est en train de flamber de cet amour, et vos paroles sortent comme des flammes de l'amour, les flammes de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alors, les gens qui vous écoutent, ils sont attirés. Ils sont attirés. Ils sont attirés et ils sont retenus. Ils sont retenus. C'est pour ça que vous allez avoir un fruit qui demeure. Ils sont retenus. Ils sont pénétrés par la parole que vous annoncez, par la parole de vie. Ils sont bouleversés. Ils sont délogés de leur résistance, de leur indifférence. Ah, ils ont entendu beaucoup de choses, hein, surtout maintenant, n'est-ce pas? Il y a des voix partout avec les masses médias, n'est-ce pas? Tout le monde parle. On parle et on entend beaucoup de choses. On lit peut-être aussi pas mal de choses, mais enfin on entend surtout beaucoup de choses. Alors le monde n'a pas besoin de nos petites démonstrations, il n'a pas besoin que nous lui apportions une doctrine bien affinée, bien mise au point, d'une démonstration. Oh, pas du tout, pas du tout. Le monde a besoin de ce qu'il n'a pas. Et de ce qui est nécessaire à tout homme, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et l'amour de Christ passe dans les paroles qui sont prononcées, qui jaillissent d'un cœur aimant. Un cœur aimant. Ces paroles-là ont une force terrible. Et je l'ai vu en expérience, je ne peux pas vous raconter tout cela, mais l'expérience me l'a bien montré. Je l'ai vu en expérience. J'ai vu que l'amour avait véritablement comme des effluves, n'est-ce pas? Car l'amour est surnaturel, mes amis. Il est surnaturel, c'est pas étonnant qu'il apporte une puissance invincible. Il est surnaturel. L'amour va, ira dans toutes les plaies de l'humanité. Elles sont nombreuses, elles sont grandes, elles sont terribles, elles sont quelquefois atroces. Allez dans les hôpitaux, là vous verrez des plaies dans les corps, mais allez aussi ailleurs, vous verrez d'autres plaies, des plaies terribles. Eh bien l'amour, lui, est capable d'aller dans les plaies. C'est ce qui fait que le Seigneur Jésus est allé vers les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, il leur a apporté cette parole qui était toute flambante d'amour, et il a eu comme cette femme de mauvaise vie qui est venue là à ses pieds, et qui a inondé ses pieds de ses larmes. Chers amis, qu'est-ce qui avait fait cela, sinon l'amour? L'amour qui était sorti du cœur de Dieu, du cœur du Seigneur. L'amour ne juge pas. Et il sanctifie tout ce qu'il pénètre. Et l'amour, dans votre contact, car vous voulez avoir du contact, bien sûr, avec les gens qui vous entourent. Vous savez bien que vous êtes pressé d'annoncer Christ. Eh bien, lorsque vous aurez des contacts avec des personnes de votre entourage, alors si vous aimez, votre amour va se trouver en plein choc avec le péché de ces gens. Vous allez rencontrer des pécheurs, bien sûr. Ce n'est pas des anges à qui vous allez annoncer l'évangile, c'est à des pécheurs. Et vous allez ne pas les juger. C'est ça que veut dire Paul. Vous n'allez pas les juger. Vous n'annoncez pas l'évangile pour juger. Le Seigneur n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Alors, vous allez vous rencontrer avec le péché. Vous allez peut-être même, par vos paroles, voir se produire ce que l'Écriture nous annonce, faire abonder le péché. Vous allez voir peut-être les autres mentir, peut-être vouloir se disculper. Vous allez faire abonder le péché, mais vous allez le faire paraître à la lumière. Et alors, c'est là que la miséricorde de Dieu va faire son œuvre. Tout ce qui paraît à la lumière est sanctifié. Le péché va être pardonné, absous. Vous allez amener des âmes à Christ de cette manière-là, chers amis. Comprenez-vous ? C'est pas votre démonstration qui va les amener. C'est la puissance de l'amour qui va affouiller leur vie, leur cœur, faire sortir ce venin, ce mal qu'est le péché, dont ils ne sont pas conscients même, souvent. Et le Seigneur, lui, va mettre sa miséricorde là, et vous aurez gagné des âmes, par l'amour de Dieu. Ou si c'est pas vous, hein, dites pas c'est moi qui... Non, c'est l'amour de Dieu, par votre moyen, qui l'aura fait. Et je dirais encore ceci, c'est que pour sauver les âmes, il faut les amener à connaître Christ, c'est-à-dire les amener dans un lien vivant, un lien de communion, un lien réel avec Christ, les faire entrer dans la communion. Ces âmes, n'est-ce pas, que vous aurez amenées à l'état de repentance parce que tout à coup le péché aura abondé, ce péché se sera vu et l'âme elle-même aura vu son péché, ce sera le temps de la repentance et ce sera aussi le temps du pardon du Seigneur. Et alors, là, qu'avez-vous à faire ? Les amener dans la communion avec le Seigneur Jésus. Et enfin, nous dirons que l'amour porte tout à la perfection, car il est le lien de la perfection. Dans un verset de Colossiens 3:14, il est dit que l'amour est le lien de la perfection. Alfred Kuhn traduit de la manière suivante. L'amour lie parfaitement les vertus ensemble et rend la communion indissoluble. C'est paraphrasé, d'accord. Mais il y a là un peu, n'est-ce pas, une explication du sens. Voyez-vous, lit toutes les vertus ensemble, tout ce qu'il y a de magnifique, tout ce qui procède de Dieu et de la vérité, tout cela, n'est-ce pas, et il rend la communion, d'abord il établit la communion et il la rend indissoluble avec le Seigneur. Eh bien, chers amis, est-ce que nous n'avons pas fait ce matin un bilan très intéressant, un bilan véritablement magnifique de toute l'œuvre qui peut se faire par le moyen de l'amour ? Et disons, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui voudrions aller de progrès en progrès, qui voudrions servir le Seigneur, toujours plus, toujours mieux, avec plus d'efficacité. Nous qui, quelquefois, sommes un peu chagrins et disons « Oh, les temps sont durs, vraiment c'est dur maintenant, on n'arrive pas, c'est dur ». Mais l'amour, lui, il ne craint pas le terrain dur. L'amour ne craint pas le terrain dur. Il est fait pour percer le terrain dur, chers amis. Quand je vois que Dieu a donné, par exemple, à certains insectes, une sorte de vrille pour percer le bois le plus dur, à des insectes, des petites vrilles là qui percent le bois, alors vous croyez qu'il n'a pas donné à son amour qui est le lien de la perfection, son amour qui remplira le royaume de Dieu, vous croyez qu'il ne lui a pas donné toute la puissance, la force, mais c'est lui qui rend les œuvres vraiment surnaturelles, les œuvres fortes. Alors, chers amis, ne dites plus que le terrain est dur. Mettez-vous aux pieds du Seigneur et dites-lui, Seigneur, ton amour, remplis-moi de ton amour. Seigneur, verse en moi à flot ton amour. Et que dans l'humilité, avec la connaissance que tu me donnes, et de laquelle je ne ferai rien d'autre que de l'énoncer par l'amour, que je puisse véritablement appeler des âmes pour toi, attirer des âmes à Christ, et te les amener pour que tu les scelles de ton sceau et que tu leur donnes les grâces du salut. Voilà, chers amis, ce qu'il faut faire. Est-ce que vous le voulez, cela ? Il n'y a pas d'autre progrès possible dans l'Église que de cette manière, ne discutons plus, chers amis, quand nous discutons ou quand nous voulons raisonner sur la parole de Dieu. Savez-vous ce que nous faisons? Nous faisons apparaître des idoles, des faux dieux. Nos raisonnements sont des idoles, pas autre chose que ça, des idoles. Prenons la parole de Dieu, elle est de Dieu. Nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, nous la respectons. Et l'amour nous le fera comprendre. Savez-vous que l'amour nous fait comprendre tout? Parce que le Seigneur Jésus un jour a frémi lorsque il a fait monter vers son Père cette prière. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Ah, chers amis, voilà qui est grand, voilà qui est beau, voilà ce qu'il faut savoir, se livrer tout entier à l'amour de Dieu, donner à notre foi sa pleine aisance, son plein développement, et par la foi saisir tout ce que le Seigneur nous a révélé et marcher avec confiance. L'amour fera le travail de celui dont il provient, c'est-à-dire du Dieu vivant et vrai. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te bénir pour ton grand amour. Nous comprenons, ô notre Dieu, que cet amour, nous ne l'avons pas, et nous ne pouvons l'avoir que si tu en remplis notre cœur, que si tu nous le donnes, Seigneur, que si tu le mets là, à notre disposition, pour que nous puissions l'utiliser, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs en soient remplis et pénétrés, et toutes choses seront alors conformes à ta volonté. Nous accomplirons ta volonté qui est sainte et bonne pour nous. Au nom de Jésus, amen.